Je suis prêt à commencer. Donc d'abord, je voulais vous remercier de votre accueil ici à Châlons. On s'était rencontré à Dijon où j'avais fait cette conférence et M. Fournier m'avait demandé si j'étais prêt à venir faire à Châlons. Bien évidemment, la preuve, c'est que je suis là. Il y a peu de temps, c'était il y a 2 ou 3 ans, l'année mondiale de la chimie. Et à cette occasion, je trouvais que c'était intéressant de montrer que ces découvertes extrêmement importantes de la radioactivité, puis de ce qu'on appelait la radioactivité artificielle, et aussi du phénomène de fission du noyau de l'atome, il paraît que vous connaissez tout ça parce que M. Fournier vous a déjà parlé de tout ça, ces découvertes avaient été faites par des chimistes, et il se trouve qu'en plus ce sont des femmes, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, mais des chimistes qui avaient découvert ces phénomènes qui sont essentiellement physiques grâce à des réflexes de chimistes. Et donc, comme c'était l'année mondiale de la chimie, que c'est une histoire quand même que je connais relativement bien, parce que, en réalité, avant de venir au CNAM, j'ai été le 5e et dernier successeur sur la chaire de Marie Curie, à l'université qui s'appelle Pierre et Marie Curie, qui est l'université Paris 6. Et il y a eu sa fille après, on verra tout à l'heure, Irène, et puis il y a eu, après Moïse Zinski, il y a eu Georges Bouissière qui était mon grand patron. Et quand Georges Bouissière est parti à la retraite, il m'a dit « Fos, c'est vous qui prenez la suite, c'est un honneur pour moi ». Et donc, j'ai fait ça jusqu'à ce que donc, je vienne au CNAM occuper une chaire au conservatoire. Et donc, d'ailleurs, je n'ai pas été remplacé, c'est pour ça que j'étais le dernier, parce que quand je suis parti, la chaire est tombée avec moi. Et donc, c'est une histoire donc, que je connais relativement bien et qui est une histoire intéressante. Alors, il y a 3 parties. Je vais essayer d'être quand même le plus rapide possible, mais ça devrait tenir en une heure et quart à peu près. Donc, il y a la découverte donc, du phénomène de radioactivité naturelle. Donc, Marie Curie avec son mari Pierre, comme vous le savez, et puis Henri Becquerel. Et ils auront donc tous les trois le prix Nobel donc, de physique en 1903. Pas partagé en 3, comme on le pense parfois, mais partagé en 2, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, le jury Nobel a dit bah, « Tiens, il y a un couple, et puis il y en a un tout seul, donc on va partager en 2 ». Donc le couple a eu la moitié du prix, et Becquerel a eu l'autre moitié. Et puis Marie Curie, vous le savez, aura après donc, le prix Nobel de chimie en 1911. Ensuite, donc, il y a la découverte de ce qu'on appelait la radioactivité artificielle, qui en fait, ça n'est pas une radioactivité artificielle, c'est la radioactivité qui est naturel dans les étoiles après le Big Bang, etc., mais qui a disparu et que l'homme a recréé, et l'homme, c'était des Français, recréé à partir de 1934, et qui vaudront donc à la fille de Marie Curie, Irène, et son mari, Frédéric Joliot, le prix Nobel donc de chimie, et vous verrez pourquoi chimie tout à l'heure, en 1935. Et puis enfin, on va retrouver encore Irène Joliot-Curie qui va permettre la découverte et l'explication en fait, de ce phénomène donc de fission du noyau atomique. Bon, vous avez là, c'est Marie Curie avec ses deux filles. Je vous dirai un mot de Ève Curie aussi, tout à l'heure, qui a disparu il n'y a pas très très longtemps, puisqu'elle est morte à 103 ans, hein, en 2007. Donc, c'est pas si longtemps que ça. Alors, en fait, si on peut dire que le XVIIIe siècle était le siècle des Lumières pour les arts et les lettres. On peut dire que, donc, pour les sciences et techniques, c'est celui-là. Tout démarre à la fin du XVIIIe siècle avec Lavoisier, que vous voyez ici, donc, avec son épouse. Je vais dire beaucoup de bien des femmes, d'ailleurs, ce soir. C'est bien qu'il y en ait beaucoup dans la salle. Parce qu'en fait, vous savez que Lavoisier n'écrivait rien du tout, et sa femme, en fait, faisait de très, très jolis dessins. Et on a, grâce aux dessins qui montraient les expériences qu'il avait faites, on pouvait remonter très, très facilement à ce qu'il a fait. Et il a été guillotiné parce qu'il y a un imbécile qui a emporté le morceau en disant « La Révolution n'a pas besoin de savants », ce qui était quand même une grosse connerie, hein, je pense, on est tous d'accord. Et voilà comment on emporte un vote à une voix près. Et ce pauvre Lavoisier, eh bien, il s'est fait guillotiner. Mais la Révolution aussi a servi au développement des sciences et à la création de beaucoup de grandes écoles. Et alors, bah, puisqu'on est à Châlons quand même, donc je vais démarrer avec Nicéphore, hein, qui s'appelait Joseph. En réalité, Nicéphore, c'est un prénom qu'il s'est inventé. Et vous savez qu'en réalité, Nicéphore Niépce était persuadé que ben, c'était grâce à son moteur à explosion, puisqu'il a inventé le moteur à explosion, qu'il deviendrait célèbre, et pas du tout par cette espèce de petit gadget. C'est pour ça qu'il avait vendu ça à Daguerre pour une bouchée de pain. Mais il reste encore aujourd'hui. Et puis la photographie, comme vous le savez, c'est quand même ben, le premier détecteur de rayonnement, on va voir tout à l'heure. Donc c'est quand même ces plaques photographiques qui ont permis la découverte de ça. Et encore aujourd'hui, hein, tous les dosimètres que portent tous les travailleurs du nucléaire, donc par centaines de milliers chaque mois qu'on fait, c'est encore des plaques photographiques ou l'équivalent de plaques photographiques. Et donc, si on regarde bien la lignée des Becquerel, vous voyez, ben, ça remonte à l'un des premiers élèves de l'école polytechnique, c'est Antoine César Becquerel, que vous voyez ici. C'est donc l'un des premiers élèves de l'école, puisqu'il était en 1806, et lui fait des recherches sur les courants électriques, membre de l'Académie des sciences, même président de cette académie. Et si je vous parle de lui, c'est pas seulement parce qu'il est le grand-père de Henri Becquerel, mais aussi parce qu'il est nommé professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et il s'installe au 57 rue Cuvier avec sa famille. Et vous voyez, il aménage là son laboratoire, et pendant 115 ans, ce laboratoire va faire des découvertes, dont celle dont on va parler tout à l'heure, avec son petit-fils, et vous voyez que c'est une lignée de polytechniciens, le fils sera polytechnicien, le petit-fils aussi, l'arrière-petit-fils aussi. Ça s'arrêtera là parce que Jean n'aura pas de descendants, donc on aura pu supposer que ça aurait peut-être continué. Donc voilà, le laboratoire s'installe, donc on est au 57 rue Cuvier. Et vous avez ensuite donc Edmond, donc le père de Henri. Et vous voyez Edmond, alors il y a un peu les dates qui sont bouffées en haut à cause de moi, là, de la petite étiquette, mais enfin c'est pas bien, bien grave. Assistant de son père au muséum, ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein, c'était assez facile en fait, mais c'était quand même des gens qu'il méritait. Il a été professeur de physique au Conservatoire national des arts et métiers, membre de l'Académie des sciences, président, etc. Et lui, justement, il est là parce que ses travaux majeurs, c'est la luminescence et la phosphorescence, et des travaux que va reprendre, en fait, son fils, Henri, que voilà. Donc il s'appelait, en fait, Antoine Henri, mais il voulait qu'on l'appelle Henri. Lui aussi, à l'époque, voyez, on pouvait cumuler, hein, enseignant au muséum, au CNAM, à l'école polytechnique. Et à l'époque, vous touchiez les trois salaires. Hein. Bon, moi, j'ai été prof dans plusieurs écoles, mais c'était, hélas, terminé depuis 1970. Et là, on n'avait plus qu'un seul salaire, et puis le reste, c'était payé en heures supplémentaires. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, il reprend donc les travaux de son père sur les phénomènes donc, de phosphorescence, jusqu'à ce que Röntgen, et donc on arrive en décembre 1895, découvre les rayons X. Alors, où est-ce qu'on en est ? Là, je vais aller assez vite, parce que ça, vous connaissez tout ça. La notion d'atome en 1995. Vous savez que cette notion d'atome, elle remonte très très loin, hein, vous avez dû le dire. Démocrite, c'est 2400 ans avant. Quand on lit ça, on est quand même assez étonné, quoi. Hein, parce que vous avez toute la physique et toute la chimie, là. Hein. Le doux et l'amer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide. Tout ce qui existe résulte des chocs et des combinaisons qui ont lieu entre d'infimes corpuscules, donc ça, c'est la chimie. Hein, insécables, tout fait de la même matière et doué de mouvement, les atomes. Les atomes sont invisibles, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas les voir. Si vous voulez, là, on est dans ce qu'on appelle la pensée pré-scientifique. Hein, contrairement avec tout ce que je vais vous dire après, où la science s'appuie sur l'expérience, sur l'observation, ça, c'était une idée, quoi. Et son idée, c'était tout ce qui nous entoure ici, et même des oiseaux, de l'herbe, etc. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, et il y a un moment, je ne peux plus couper. Et j'ai ma brique fondamentale, et donc tout ce qui m'entoure, c'est un empilement de tout ça. Mais évidemment, il n'avait pas de preuves scientifiques de ça. Hein. Il n'y avait pas d'expérience derrière, donc il ne pouvait pas s'appuyer là-dessus. Mais on est quand même, vous le voyez, 2400 ans avant. Hein. Alors j'ai dit du bien d'un philosophe, je ne vais pas dire du mal, mais 2000 ans après, vous voyez, on n'avait pas fait beaucoup de progrès, parce que même Leibniz dit « car s'il y avait des atomes dans la nature, cela irait contre les plus grands principes de la raison ». À l'époque, on ne vous disait pas « mon cher ami, tout ça, c'est que des imbécilités ». On employait cette phrase qui était bon, « vous n'y pensez pas, cela va contre les plus grands principes de la raison ». Mais ça veut dire la même chose. Vous voyez, 2000 ans après. Hein, bon. Donc, on en arrive ensuite à Lavoisier, etc. On avance. Et en 1995, en fait, ben, on vous en a parlé. Hein, je sais que M. Vaudin vous en a parlé. C'est le modèle de Thomson. Hein, mais l'atome, c'est une petite bille. Hein, on ne sait pas trop où il y a dedans. C'est le fameux plum pudding, puisqu'après, il va découvrir l'électron. Donc, il tombe forcément là-dedans. Je vous en parlais un peu. Et ça, c'est Joseph John Thomson. qui était à l'époque le patron du laboratoire de physique donc, de Cambridge. Donc, décembre 1995, découverte des rayons X par Röntgen, que voilà. Donc, il fait la photo de la main de sa femme montrant qu'effectivement, il y a un rayonnement qu'il appelle X, d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas du tout d'où ça vient, il ne connaît pas l'origine. Hein. Il sait comment ça marche, mais c'est tout. Et il va s'écouler quand même pratiquement 30 ans avant qu'on sache, qu'on connaisse l'origine de ces rayonnements. Vous imaginez d'une découverte de 1995 où il va falloir attendre 2025 pour avoir la réponse. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Hein. Or, à l'époque, très vite, on a su utiliser, j'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs avec Marie Curie, on a su utiliser ces rayons X à bon escient, mais on ne savait pas d'où ça venait. On connaissait simplement, on savait comment ça marchait, on connaissait la recette pour les avoir, mais on ne savait pas du tout d'où ça venait. Hein. Alors là, vous voyez, donc, il a pris donc, la photo de sa femme, Bertha, là, c'est la main de sa femme. Alors peut-être parce qu'il a peut-être un peu peur pour lui de l'action des rayonnements, c'est pas impossible. L'histoire ne le dit pas, ou peut-être que comme il y avait justement cette bague et tout ça, ça permettait de voir, puisque le rayonnement s'était aperçu très vite que, eh bien, selon, évidemment, la densité de ce qui traversait, elle était plus ou moins atténuée. Et donc, les découvertes, en fait, elles sont dans ces livres que vous voyez, qui sont les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. Et tout tient dans ces quatre volumes que vous voyez ici. Il y en a cinq, mais en fait, ça tient dans quatre de ceux-là. Je vais vous parler de ça dans un instant. Donc, Becquerel, qui travaille sur ces phénomènes de phosphorescence-luminescence, se dit, tiens, dans le fond, c'est peut-être bien les rayons de Röntgen, c'est peut-être bien la même chose. Alors, il sait que ces minerais d'uranium sur lesquels il travaille ont des propriétés d'émission de rayonnement. Donc, du coup, il met un écran. Vous avez peut-être vu tous ces photos. Mais il faut qu'il excite la matière. C'est ce que disait Röntgen. Il faut que la matière soit excitée par de la lumière ou de la chaleur. Et donc, vous connaissez tous l'histoire. On est le 1er mars 1896. C'est un dimanche. Alors, les chercheurs, ils travaillent 7 jours sur 7, comme vous le savez. Alors, pourquoi un dimanche? Parce que c'est encore vrai aujourd'hui. L'Académie des sciences se réunit le lundi. Et si vous devez faire passer une découverte ou quelque chose et prendre date le plus rapidement possible, alors c'est très important parce que quand vous êtes en train de découvrir quelque chose, vous n'êtes pas le seul hein, sur la planète. Hein, vous ne savez pas trop bien d'ailleurs, mais vous avez plusieurs laboratoires qui travaillent là-dessus. Et évidemment, c'est le premier qui va l'emporter. Ça peut se jouer à quelques jours. Or là, vous confiez votre papier à un académicien que vous avez dans votre poche, et on a tous des académiciens dans nos poches, mais ce n'est pas un problème. Il ne se mouille pas. Le lendemain, il dit, voilà, Fauss me dit qu'il a découvert le fil à couper le beurre, etc. Bon, il fait la publication. C'est pas lui. Lui, il dit simplement, c'est lui qui a dit. Mais vous prenez date, terminé, clac, c'est dans le truc. Et si un jour... Un autre, deux jours après, dit « Ah tiens, je viens d'inventer le fil à couper le beurre », on dit « Ah non, parce qu'il y a deux jours, à Paris, il y a eu une communication de fait là-dessus, donc c'est pas vous le premier, c'est l'autre. » Donc c'est vraiment le moyen encore, même aujourd'hui, le plus rapide. Et voilà pourquoi Becquerel, qui veut le lendemain faire une communication à l'Académie des sciences, ça beau être dimanche, il dit « Allez, je fais cinq expériences », donc il prend cinq grandes plaques, vous savez, des plaques vitrées à l'époque. Alors il fait attention, il met quand même un petit peu de papier autour, il pose ses minerais, puis il met ses minerais d'abord sur la fenêtre pour les exciter, parce qu'il pense qu'il faut qu'ils soient excités. Manque de chance, pas de soleil. Il manque pas bien, pas de soleil, c'est foutu. Bon, alors il dit, bon, il dépouille même pas ses plaques, il dit, bon, bah c'est mort, quoi. Hein. Bon, malgré tout, le lendemain, donc le lundi 1er mars, il fait cette publication. Donc voici le titre, vous voyez, sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents. Note de M. Henri Becquerel, puisque lui, il est à l'Académie, donc il n'a pas besoin d'un académicien pour faire la note. Et là, il dit d'énormes bêtises. Hein. Vous voyez, les expériences que je rapporterai ont été faites sur des radiations émises par des lamelles cristallines, donc de sulfate d'uranyle, c'est de l'uranium, de potassium, corps, dont la phosphorescence est très vive. On peut vérifier très rapidement, très simplement, que les radiations émises par cette substance, quand elle est exposée au soleil ou à la lumière diffuse du jour, ça c'est idiot, il n'y en avait pas besoin, mais il ne le sait pas encore, hein, traverse non seulement des feuilles de papier noir, mais encore divers métaux, etc. Donc voilà, il ne peut pas s'empêcher, il fait quand même sa publication. Là, il ne s'appuie pas sur son expérience. Voilà. Bon. Et alors, le temps passe un peu. Et trois semaines après, le soleil est revenu, il peut refaire ses expériences et tout. Alors quand même, comme c'est un bon chercheur, comme il l'a déjà prouvé comme il va encore le prouver, il a ses cinq plaques de l'autre jour et il se dit « bon, je vais les réutiliser puisque ça n'a pas marché ». Et quand nous avons cherché, il dit « bon, quand même, je vais en sacrifier une pour voir. Si celle-là, elle n'a rien, je considérerai que les quatre autres n'ont rien et puis je les utiliserai ». Et c'est là qu'il s'aperçoit que ce n'est pas la peine qu'il s'embête comme il faisait depuis des semaines et des semaines à mettre ça au soleil. Il a exactement le même signal. Et que donc, le rayonnement qui est émis par ces minerais d'uranium, il a changé de minerai entre-temps pour montrer que ça n'est bien de l'uranium, eh bien, ce n'est pas du tout le rayon X de Röntgen. C'est un rayon particulier qu'il appelle le rayon uranique. Et le lendemain, 23, donc... Mars, sur les radiations invisibles émises par les sels d'uranium, note de M. Henri Becquerel. Alors, la voici, ici, et donc, on est en 1896, il va y avoir un certain nombre d'acteurs là-dedans qui vont arriver, et voilà, on va s'arrêter juste une seconde pour regarder un petit peu l'âge qu'ils ont. Donc, vous voyez, vous avez la génération des Becquerel, Curie, Thomson, qui sont autour de la quarantaine, enfin 30-40 ans. Rutherford est un petit peu plus jeune, on va parler de lui tout à l'heure. Einstein n'a que 17 ans pour l'instant, hein, donc il doit encore être en train de faire ses études. En revanche, Max Planck, il a déjà 38 ans, il est de la génération des autres. Niels Bohr, il n'a que 11 ans. Otto Hahn, Niels Magner, ils ont 17-18 ans. James Chadwick, dont je vais vous parler tout à l'heure, là, qui va découvrir le neutron, pour l'instant, il a 5 ans. Hein. Schrödinger, 9 ans. Louis de Broglie, 4 ans. Et Compton, 4 ans. Puis alors, vous avez ceux qui ne sont pas encore là. Hein. Donc, Irène Curie est moins 1 an, Frédéric Joliot moins 4, Pauli moins 4 aussi, Heisenberg moins 5, etc. Fermi est moins 5, Oppenheimer moins 8, Teller moins 12 et Seaborg moins 16. Bon, donc tout ça, voilà, c'est, ils vont arriver et puis ils vont nous apporter beaucoup de choses dans l'avenir. Alors, pour être tout à fait honnête, le premier en réalité qui a soupçonné ce phénomène, ben, c'est un petit cousin, vous voyez, de Nicéphore, qui se faisait appeler de Saint-Victor, parce qu'il trouvait que Niépce, déjà, c'était très connu et tout, et il voulait faire un trou, donc il avait changé de nom. Et ben, lui, vous voyez, en fait, il n'a pas eu de chance. Vous verrez tout à l'heure, les sels d'uranium, en fait, étaient connus à l'époque et sont encore connus pour avoir de très, très jolies couleurs. Des très jolis jaunes, très jolis verts, etc. Et c'est utilisé par les céramistes et les potiers. Et lui, eh bien, c'est le premier à avoir colorisé des plaques photographiques. Et donc, il utilisait les sels d'uranium pour colorer. Il pensait que ça allait avoir des jolies couleurs. Et en réalité, sur les plaques, c'était des énormes trucs noirs. Et il se demandait ce que c'était, quoi. Il ne comprenait pas. Et le premier, il a soupçonné le premier que, justement, il se passait quelque chose avec ces sels d'uranium. Vous voyez, on est 35 ans avant Henri Becquerel. Mais bon, il n'a pas poussé, c'était pas son truc, quoi. Donc.
Ah,
Jean-Claude est venu. Oui, oui, d'accord. Bah oui, oui. Ah, bah voilà. Donc voilà. Donc voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et parler donc de Abel. Donc pour l'instant, vous voyez, l'historique, bah, ça s'arrête donc à une découverte concernant l'uranium. Alors, vous pensez que c'est un truc extraordinaire, que ça fait les gros titres des journaux, etc. Bon, pas du tout. Tout le monde s'en fout, parce que personne ne connaît l'uranium. C'est le dernier des éléments de la classification. Je vous dis, il n'y a que les céramistes et les potiers, à la rigueur, qui ont entendu ce nom-là. Et donc, le soufflet retombe, quoi. Et cet uranium, juste un mot, découvert en 1789 donc, par un Autrichien qui s'appelait Klaproth et qui faisait de la recherche. En plus, à l'époque, les chercheurs, voilà, c'était tous bénévoles. Hein, il fallait même une petite fortune personnelle à côté pour vivre. Et il était pharmacien, lui. Et découvert donc en 1789, ce qui, je disais toujours à mes étudiants, c'est un moyen facile pour retenir la date de la Révolution française. C'est la même année que la découverte de l'uranium. Et si je vous montre ça, quand même, c'est assez intéressant. Vous voyez, ça, c'est un extrait des mémoires de l'Académie royale de Berlin. Hein, en 1792, et vous voyez qu'à l'époque, on publiait en français dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin. Hein, alors, Ça, les S, ils étaient écrits un peu comme des F. Alors c'est pour ça que c'est écrit comme ça, vous voyez, parce que c'était, les S étaient des grands trucs comme ça. Donc c'est écrit, voilà. Et les E sont comme ça aussi. Il faut par conséquent bannir de la nomenclature les noms décevants de Pechblende et Eisenpeckers. On doit assigner un nom nouveau à ce fossile et le lui conserver exclusivement. Je me prévaut des droits incontestables de tout inventeur et je donne à ce métal nouveau le nom d'uranium ou urane, emprunté de la planète Urane, dont la découverte est également récente. Urane, c'est Uranus, hein, bien sûr, c'était 1781. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi les éléments suivants de la classification, sous les autres jours, s'appellent neptunium et plutonium, pour Neptune et Pluton, avant que les Américains faisaient ces découvertes, disent oh, « on est vraiment crétins, on va se faire notre pub », et après, vous avez du californium, du berkelium et de l'américium pour montrer que c'est les Américains qui faisaient tout ça. Et donc, voyez, voilà, ça en français. Et pour être tout à fait honnête, et pour dire du bien d'un de mes anciens collègues du CNAM, puisque Eugène Péligaud était aussi professeur au Conservatoire national des arts et métiers, c'est lui, il a montré que, en fait, c'était l'oxyde d'uranium qui avait isolé Klaproth, et c'est lui qui, donc, produit l'uranium métal. Voilà, vous voyez, des jolies couleurs, hein, cet uranium. Donc ça, c'est la classification de l'époque, donc vous voyez qu'il y avait quand même un certain nombre de trous. Alors évidemment, tout ce qui est bleu est radioactif, donc... Bah, à part l'uranium et le thorium, mais dont on ne connaît pas encore les propriétés radioactives, évidemment. Mais il y a aussi, bon, il manque le lutécium, il manque le rhénium, il manque même encore des éléments stables. Et 10 ans avant, tout ce qui s'appelle terre rare, là, qui est donc là, ça s'appelle N-1D, là, non, N-2F, pardon, tout ça, ça n'existait pas. Hein. C'est venu dans les 10 années avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Arrivent donc Pierre et Marie Curie dans cette histoire. Donc Pierre, vous voyez, donc lui, il a été instruit par ses parents, ce qui fait qu'il a été plus vite dans ses études, baccalauréat à 16 ans, licencié sciences à 18 ans. Et là, il est nommé préparateur adjoint, donc laboratoire de physique de la Faculté des sciences de Paris. Et après, donc là, il devient préparateur en 80, et il découvre l'effet piézoélectrique avec son frère Jacques. 1995 est une très grande année pour Pierre Curie. Un, parce que, vous voyez, il soutient sa thèse de doctorat justement sur ce qui s'appelle la loi de Curie encore aujourd'hui et le point de Curie, donc le 6 mars. Le même mois, il est nommé, vous voyez, professeur d'électricité et de magnétisme à ce qui s'appelait à l'époque l'école municipale donc de physique et de chimie industrielle de Paris. Et le 26 juillet, donc, il épouse une de ses élèves. Comme quoi, vous voyez, nous, les professeurs, on fait parfois un métier dangereux. Hein, donc, Marie Sklodowska, le 26 juillet. Et moi, je suis né le 26 juillet. Voilà les hasards, quand même. Hein, bon. Et Marie Sklodowska Curie. Donc, elle est née à Varsovie. À l'époque, c'était l'Empire russe. Et dans l'Empire russe, eh bien, les filles, vous voyez, pouvaient aller jusqu'au certificat d'études secondaires, mais c'était terminé. Elles ne pouvaient pas faire d'études supérieures. C'était interdit aux filles. Alors évidemment, elle a la médaille d'or bon, pour ce certificat de fin d'études, c'est clair. Et sa fille, donc sa sœur, pardon, avait épousé un médecin parisien. Et elle lui dit, bah, écoute, ici, tu pourrais continuer tes études, si tu le veux. Je vais mettre de l'argent de côté. Toi, tu mets de l'argent de côté. Donc elle gardait des enfants enfin, pendant quelques années. Elle avait complètement, évidemment, elle avait abandonné les études. Elle ne pouvait pas, d'ailleurs. Et en 91, donc elle arrive à Paris, s'inscrit évidemment à la faculté des sciences. Elle est reçue première à l'essence de physique en 93, ça ne doit pas vous étonner. Seconde à celle de mathématiques l'année suivante. Ça, c'est son beau diplôme de licence de sciences physiques. Et elle veut faire de la recherche. Elle veut absolument faire de la recherche. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Et en 94, donc, elle rejoint le laboratoire où travaille justement Pierre Curie sur le magnétisme. Et puis... Alors, malgré tout, les filles pouvaient faire des études, mais ce n'était pas si simple. Alors, les femmes avaient trouvé un moyen un peu dévié. Vous voyez, on crée un concours d'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles. Bon, alors les hommes qui pilotaient tout ça ne voient pas le truc venir. Et puis, une fois qu'ils sont d'accord, les femmes disent « Oui, mais attendez, quand même, pour enseigner à des jeunes filles, il vaut mieux que ce soit des femmes, quoi. Hein ?» Donc, ce concours d'agrégation, on va le réserver aux femmes. Bon. Alors, Marie Curie donc, se présente à ce concours. Bon, elle est reçue première, évidemment. Normalement, vous savez, quand on a l'agrégation, on doit prendre un poste d'enseignement, mais elle, non, elle veut faire de la recherche. Donc, elle veut préparer une thèse de doctorat. Et évidemment, le 26 juillet, le même jour que Pierre Curie, elle épouse Pierre Curie. Les voilà donc. Le jour des noces, c'était en noir à l'époque, visiblement. Et puis, ils partent en voyage de noces à bicyclette. On leur avait offert des bicyclettes comme cadeau de noces. Et donc, ils partent à bicyclette et ils discutent de ça. Et donc, Marie Curie dit il faudrait que je trouve un sujet de thèse. Pierre Curie était un copain d'école de Becquerel. Il se fréquentait, il se connaissait très bien, il se voyait à l'académie. Et il lui dit écoute, tu devrais reprendre ces travaux-là de Becquerel. C'était quand même intéressant. Et tu devrais reprendre ça. Alors, elle dit d'accord. Et c'est là qu'intervient le réflexe d'un ou d'une chimiste. Que fait un ou une chimiste pour étudier un phénomène sur des minerais d'uranium que Becquerel a montré que c'est de l'uranium, puisque même en changeant de minerai, on a la même chose. Que fait un chimiste, et pas un physicien, parce que le physicien, ce n'est pas son truc. Il dit je vais isoler chimiquement l'uranium du minerai. Je vais purifier, donc. Et comme ça, ce phénomène que Becquerel a vu un petit peu, je vais le voir beaucoup plus. Et elle le voit beaucoup moins. C'est ça, la découverte. C'est ça, l'astuce. Alors, très vite, vous voyez, Pierre Curie, qui est au milieu, là, trouve ça intéressant. Il lui bricole le premier détecteur, en réalité. Hein. Vous savez que le rayonnement, donc, quand il traverse de l'air, crée des charges. Et donc, ces charges, il était arrivé à les transformer en un signal électrique, une intensité électrique. Et donc, le spot qui se déplace sur l'espèce de réglette que Marie-Curie a regardé, plus le spot se déplace, et plus, évidemment, il y a une émission de rayonnement. Le fameux laboratoire qui avait été repris dans les palmes de M. Schultz, d'ailleurs très bien refait, qui était à Normalsup, hein, rue Laumont, laboratoire de Normalsup. Et donc, Marie Curie est perplexe là-dessus, et on arrive, vous le voyez, donc en 98, c'est la première publication, rayon émis par les composants de l'uranium et du thorium, note de Madame Sklodowska Curie, présentée par M. Lippmann. Elle n'est pas à l'académie. Elle n'y sera d'ailleurs jamais, hein, c'est le grand complexe encore des académiciens aujourd'hui. Pour la seule personne qui, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui n'a jamais eu deux prix Nobel de sciences dures dans deux disciplines différentes, record jamais égalé encore à ce jour, hein. Ça reste la seule, hein, seul être humain à avoir eu deux prix Nobel dans deux matières de sciences dures différentes. Hein. Et donc présenté par M. Lippmann. Et alors là, vous avez un tableau que je vous ai remis ici un petit peu plus clair, qui... Voilà, ça, c'est l'expérience. Vous voyez, uranium métal, signal donc en picoampère, 24. Bon. Oxyde de thorium, 53. On reviendra plus tard sur le fluoxyde tantalate de potassium, c'est très intéressant. Et vous voyez, le minerai de Pechblende, que ce soit de Joachim Stahl ou l'autre, 83, 67, c'est-à-dire beaucoup plus que l'uranium, qu'elle a isolé, alors qu'on a dit que ça venait de l'uranium. Et alors, vous voyez les deux dernières lignes, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle prend une calcolite. Vous voyez, la formule, la calcolite est assez simple. Donc, elle peut en synthétiser une. Donc, il suffit, vous voyez, il y a du cuivre, il y a de l'oxyde d'uranium, il y a du phosphate. Bon. Donc, elle fabrique une calcolite à partir donc d'oxyde d'uranium. Et puis, elle prend une vieille calcolite, qui a des centaines de millions, voire milliards d'années, et elle compare. Évidemment, dans celle qu'elle vient de synthétiser, la 24, elle a le signal de l'uranium, elle a mis l'uranium. Et dans l'autre, il y a 52. D'où l'hypothèse qu'elle émet de dire est-ce qu'il n'y a pas dans la gangue du minerai des éléments plus émetteurs de rayonnement que l'uranium lui-même. Et ce jour-là, elle se dit faut pas que je trimballe quand même éléments émetteurs de rayonnement, faut que je trouve un mot. Et elle invente ce jour-là le mot radioactif, donc la radioactivité. Tout de suite, je vous traite la ligne 2, là. Fluoxyde tantalate de potassium, 2. Ça, c'est très, très intéressant. Il faut regarder la démarche du chercheur. Il y a une émission de rayonnement. Mais elle n'y comprend rien. Parce que là, il y a quoi ? Il y a du fluor, il y a de l'oxygène, il y a du tantal et il y a du potassium. Elle n'en parle pas dans la publication. Parce qu'elle dit, si j'en parle, je vais dire une connerie. Hein ? On va lui dire... Quand même, ma chère amie, cela va contre les plus grands principes de la raison. Pas d'uranium, pas de thorium. Bon. Je peux vous dire que là, l'expérience, elle a dû la faire, refaire. Elle trouve toujours un signal. La vérité scientifique, elle est là, c'est l'expérience. Mais elle ne sait pas expliquer. Donc elle le met dans son tableau en disant « si je ne sais pas expliquer, ben c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de pouvoir expliquer ça. Si je dis quelque chose, je vais dire une bêtise, ce n'est pas la peine que je l'écrive. » Mais le résultat, il est là. La vérité scientifique, elle est là. Et plus tard, évidemment, c'est le potassium 40, on sait aujourd'hui. Mais à l'époque, aucune raison que le potassium puisse être radioactif. Hein. Ben, c'est écoulé des dizaines d'années avant que... Bon. Vous voyez ? Voilà. S'il y a la ligne, c'est qu'elle a vu quelque chose. Si elle n'en parle pas, c'est qu'elle dit « je ne comprends pas », c'est pas la peine. Mais il y a quelque chose, la vérité, elle est là. Donc, ben, le temps passe un peu. Donc, on arrive en juillet, 18 juillet 1896. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait ? Elle a repris, effectivement, ses gangues de minerais. Et vous savez, elle a dissous ça dans de l'acide nitrique. Elle a touillé, tout le monde a vu Marie Curie ou des actrices touiller ses chaudrons là, et faire des précipités. Et elle a remarqué qu'elle concentrait cette radioactivité en précipitant soit avec des sels de bismuth, soit avec des sels de barium. Avec les sels de bismuth, c'est le premier ici, c'est l'élément suivant. Bismuth, c'est le 83, on va pas tout à l'heure, le suivant, c'est le 84, c'est le polonium. Et ce qui suit avec le barium, c'est un élément qui a la même chimie que lui, qui est le radium, qui est juste en dessous dans la classification, c'est l'élément 88. Donc là, on est en juillet 1898, sur une source nouvelle radioactive contenue dans la pêche blinde, note de M. Pécuri, et de Mme S. Curie, c'est curieux parce que S, ce n'est pas son prénom, hein, c'est pour Sklodowska. Ça a changé, ça évolue, hein, vous allez voir, c'est présenté par M. Becquerel, lui, il n'a pas le droit au prénom. La petite étoile, c'est simplement que, déjà à l'époque, vous voyez, ils étaient très, très ouverts, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas. Il y a M. Bémont qui travaille avec eux, chef de travaux de chimie à l'école. Bon, il le remercie pour les conseils. Vous allez voir que M. Bémont va signer la publication suivante. Et donc, dans cette publication, ils disent oui, « Nous croyons donc que la substance que nous avons retirée de la pêche blinde contient un métal non encore signalé, voisin du bismuth et de ses propriétés analytiques. Si l'existence de ce nouveau métal se confirme, nous proposons de l'appeler donc polonium, du nom du pays d'origine de l'un d'entre nous. » Vous voyez bien de qui on parle. Et M. de Marsay, ceux qui ont vu les palmes de la M. Schultz se souviennent peut-être de cet extrait, a bien voulu accepter d'analyser. Vous savez, dans la pièce de théâtre, de Marsay est un copain d'école de Pierre Curie, et Pierre Curie dit qu'il s'est vendu à l'industrie parce qu'il n'a pas voulu faire de la recherche comme lui. Et il vend des appareils, des spectrographes, qui sont des appareils qui permettent effectivement d'identifier, à partir du spectre doré, l'élément en question, de savoir ce que c'est. Et on voit bien dans la pièce, il dit « Tiens, au fait, tiens, viens voir toi avec ton appareil. Tu nous as dit que tu peux identifier n'importe quel élément de la classification ?» Alors tu dis « Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Ben, tiens, regarde ça là, dis-nous ce que c'est. » Et non, évidemment, il y a du polonium. Et son appareil n'est pas capable, évidemment, parce que le polonium, personne n'a jamais vu, sauf Pierre et Marie Curie. Hein. Et vous voyez, donc, il est incapable d'y distinguer aucune règle caractéristique en dehors de celle, évidemment, due aux impuretés. Bon, bien sûr. Hein. Donc, voilà, ça reprend ça. Et c'est dans la publication. Et vous voyez, là, on arrive au 26 décembre 1898, le lendemain de Noël, hein, l'Académie travaille. Il n'y a pas de trêve des confiseurs. Sur une nouvelle substance fortement radioactive contenue dans la pêche blinde. Donc, M. Pécuri, là, c'est Mme Pécuri, et M. Bémont, présenté par M. Becquerel, toujours M. Becquerel. Et là, voilà, la nouvelle substance radioactive que venons de trouver a toutes les apparences chimiques du barium. Et ici, derrière, les diverses raisons que nous venons d'énumérer nous portent à croire que la nouvelle substance radioactive enferme un élément nouveau auquel nous proposons de donner le nom de radium, radius, rayon en latin. Donc voilà le radium, l'élément 88 qui apparaît. Et on arrive en 1901, oui, écrit en haut, cherchez la publication, qui est en fait la première publication qui décrit des effets biologiques des rayonnements. Et alors il raconte dans ces pages-là, c'est assez amusant parce que Becquerel, un jour, donc je vous ai dit que c'était un camarade d'école de Pierre Curie, il vient le voir et dit « Écoute, c'est bizarre parce que j'ai une tache rouge là sur le ventre, je ne sais pas ce que c'est. » Alors Pierre Curie lui dit « Mais tes minerais d'uranium, tu ne les mets pas dans la poche de ton gilet là ?» Il dit « Si, tu crois que c'est ça ?» Écoute, c'est bien simple, tu vas me les donner et moi je vais mettre dans les deux poches pour voir. » Et donc Pierre Curie met dans les deux poches et 15 jours après, il voit Becquerel, il dit « Regarde, j'ai deux taches !» Et c'est la première publication qui est écrite là-dedans. C'est la radiodermite déjà, quand même. C'est déjà une bonne dose de rayonnement. Hein. C'est pas. Action, vous voyez, physiologique des rayons du radium. Ah, oui, il n'y a pas Marie Curie là, c'est tous les deux. Hein. Henri Becquerel, cette fois-ci, écrit aux têtes, et il y a Pécurie toujours. Et sur la fin, vous voyez ici, ils disent bien les mains ont une tendance générale à descamation, les extrémités des doigts qui ont tenu. Évidemment, les doigts, c'est les plus sensibles, puisque c'est eux qui tiennent les capsules ou les ampoules, renfermant des produits très actifs, deviennent dures et parfois donc très douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation d'extrémité des doigts a duré une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore disparu au bout de 2 mois. Vous voyez, très vite, en fait, 1901, hein, très très vite, on a des signes d'une action biologique de ces rayonnements. Donc ça, je vous en ai dit un mot, c'est fait, j'en parle plus. Donc vous voyez, l'histoire avance, puisqu'on croyait que c'était un phénomène de l'uranium, et en réalité, donc, ça va se poursuivre jusqu'en 1911, ces recherches. Et ben, comme le dernier des éléments stables, c'est le bismuth, il y a le plomb et le bismuth, 82-83, on pense qu'en fait, c'est un phénomène qui concerne tous les éléments 92, là, 90, le uranium, le thorium, pour revenir vers la stabilité. Hein. La radioactivité, en fait, c'est le retour vers l'équilibre. C'est une phrase qui est physiquement tout à fait correcte. Les antinucléaires ont horreur quand je dis ça, mais ils sont coincés parce que c'est vrai, c'est scientifiquement vrai. La radioactivité, c'est le retour vers l'équilibre. On a déjà vu un élément radioactif devenir plus instable que ce qu'il était. Il revient toujours vers la stabilité. Mais si vous aviez dit à l'époque, oui, mais est-ce que du fer pour être radioactif ou du potassium, ça, mon cher ami, cela va contre les plus grands principes de la raison. Hein. Le phénomène s'arrête là. On arrive au plomb et au bismuth, point final, ça s'arrête. On a le phénomène de radioactivité. Alors ça, c'est un extrait du discours de Pierre Curie en 1905. Alors vous voyez, c'est curieux, ils ont le prix Nobel en 1903, hein, je dis ça tout à l'heure. Le premier prix Nobel a été attribué en 1901. Et alors j'ai eu la chance, moi, d'ailleurs, de faire partie 3 fois du jury du prix Nobel aussi, ce qui est quand même pas mal. Ça prouve que vous jouez dans la cour des grands, quand même. Quand l'Académie de Stockholm vous écrit en disant, écoutez, il faut nous proposer des candidatures pour le prix Nobel, ça, bon, quand même. Et à l'époque, donc le premier c'est Rengen, hein, 1901, physique, et donc 1905, là, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas très connu, et à l'époque, comme c'était Becquerel et Curie, les Curie disent à Henri Becquerel, écoute, tiens, puisque toi tu y vas là-bas, nous on n'a pas le temps, on a du boulot, là, bon, on va quand même pas aller à Stockholm, tu nous ramènes notre prix, quoi, hein, tu vas nous ramènes notre prix. Donc le pauvre Becquerel, là-bas, il dit, bon, est-ce que je pourrais aussi avoir le prix des... Ils ont dit, ah non, prix Nobel, on vient le chercher, et on doit faire une conférence qu'on appelle la conférence Nobel. On va faire un discours. Donc, vous repartez, vous êtes venu, vous partez avec le vôtre, mais eux, ils viendront le chercher, autrement, ils ne l'auront pas. Et du coup, bah, 2 ans après, les Curie sont allés chercher leur prix, et donc, Pierre Curie a fait... Ça, c'est un extrait. Vous voyez que c'est vrai que, bon, on peut se demander... C'est intéressant comme phrase, parce que c'est encore vrai aujourd'hui. On peut toujours se poser des questions comme ça. Hein. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel, hein, le clin d'œil pour Nobel, est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables, mais ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Bon, petit signe d'amertume quand même, 1905, vous savez, l'année suivante, Pierre Curie se fait écraser. Parce qu'on appelait déjà un camion à l'époque, mais c'était une voiture donc tirée par des chevaux. Et Marie Curie va reprendre, en fait, elle est nommée sur le... Avant d'avoir sa propre chaire, elle est nommée sur la chaire de Pierre Curie. Et sa leçon, la première leçon, le 5 novembre 1906, en fait, elle reprend le cours à l'endroit où Pierre Curie l'a arrêté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Hein, parce que bon, des profs, on peut imaginer, vous dites à vos élèves, bon, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc demain, on verra le chapitre 17 et tout, puis bah, vous faites écraser dans la rue. Bon. Et elle a repris donc le cours exactement à cet endroit-là, en hommage, en fait, à son mari. Bon, alors, j'ai eu la chance, on m'a offert d'ailleurs, au moment où j'ai pris ma retraite, le gros bouquin de radioactivité de Marie Curie. Bon, moi, ce que j'ai pas sur mon bouquin, vous voyez, quand même, c'est ce que vous avez en haut, ça jette quand même, hein. Madame Pierre Curie, professeur à la Sorbonne, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Vous voyez, ils sont quatre à avoir eu deux prix Nobel. Mais, vous allez me dire que je prêche peut-être pour ma, voilà, ma patronne Marie Curie, mais quand même. Bon, Linus Pauling, il a eu le prix Nobel de chimie, comme ça, et le prix Nobel de la paix. Bon, c'est autre chose. Les deux autres sont un physicien et un chimiste, mais ils ont eu deux fois le prix Nobel de physique, deux fois le prix Nobel de chimie. C'est-à-dire, ils restaient dans leur discipline. C'est pas mal, quand même, d'avoir deux prix Nobel, pas charrier. Mais, voilà, il n'y a qu'un être humain qui a eu le prix Nobel dans deux disciplines différentes. C'est Marie Curie. C'était en 1903 et 1911, ça fait plus de 100 ans. Personne, depuis, n'a fait la même chose. Hein. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui est intéressant aussi de cette découverte, c'est que, vous voyez, c'est une propriété, en fait, du noyau de l'atome, à un moment où on ne sait même pas que le noyau existe. On est sur le modèle de tout à l'heure. L'atome, c'est une bille, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein, en 97, Thomson découvre l'électron, donc on sait qu'il y a au moins des électrons. Bon, il y a sûrement des particules positives, mais on ne sait pas comment c'est fichu là-dedans. Hein. Au contraire, Marie Curie, qui va prêter une source de polonium, elle va lui donner, compte tenu de la période, elle ne récupérera pas, une source de polonium à Ernest Rutherford, qui va lui permettre de découvrir, justement, cette structure nucléaire. Donc, vous voyez, en plus, les Français, avec cette découverte, ont offert à la recherche mondiale un outil pour explorer la matière. Voilà. Quand on peut faire cocorico, il faut faire cocorico. Rutherford, c'est pas un mauvais non plus, Rutherford. C'est vrai que c'était un Néo-Zélandais qui devait donc pas être mauvais, puisqu'il obtient de la reine Victoria une bourse pour venir continuer ses études à Cambridge. Mais il faut vous rendre compte à l'époque ce que ça peut être pour un gamin de 14-15 ans qui va faire un voyage en bateau de 5 mois, qui abandonne donc sa famille à cet âge-là pour venir étudier quand même à Cambridge. Hein, c'est... Aujourd'hui, bon, ça, je ne dis pas que c'est facile, mais bon, on va assez facilement. À l'époque, c'était pas évident. Et Ernest Rutherford, on va en parler beaucoup. Bon, ça, sa fameuse expérience, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est lui qui s'aperçoit qu'en fait, les rayonnements, donc, si la petite bille a été complètement fermée comme on le pensait, ben, le rayonnement, il allait s'écraser sur cet écran, et en réalité, vous le savez, pratiquement tous les rayonnements alpha traversent comme s'ils n'avaient rien vu. Il n'y a qu'une particule sur 100 000 à peu près qui est déviée. Donc une sur 100 000 seulement qui a rencontré un petit truc dur et dévié, qui veut dire que ce petit truc dur, effectivement, c'est positif. Et comme en 1997, Thomson a découvert l'électron négatif, donc Rutherford dit, on a une espèce, c'est après d'ailleurs, hein, publication, et nouveau modèle de l'atome, voilà, d'un seul coup. C'est plus son patron, c'est plus le modèle de Thomson, ça devient le modèle de Rutherford, avant d'être d'autres modèles. Consiste en une charge électrique centrale, concentrée en un point, et entouré par une distribution sphérique uniforme d'électricité de signes opposés en quantité égale. On est, vous voyez, le 7 mars 1911, donc publié dans cette revue. Mais ça ne suffit pas, ça. Hein. Beaucoup reste à faire, vous voyez. Donc, c'est la fille de Marie Curie et donc le gendre de Marie Curie qui vont reprendre ça et qui vont apporter une contribution décisive à la découverte du neutron, puis la découverte du phénomène de fission Irène. Alors, Irène Curie, donc. Donc, pareil, doctorat en sciences 1925, assistante de sa mère, vous voyez, où elle rencontre son mari, voilà, Frédéric Joliot, qu'elle épouse en 26, maître de conférence au Collège de France, et professeur sans chaire à la Faculté des sciences de Paris. Et puis, après la guerre, elle sera directrice donc, de l'Institut du radium que Marie Curie avait créé, et c'est là qu'elle va occuper cette fameuse chaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelait Physique générale et radioactivité, donc, dont sa mère était la première titulaire. Elle a même été sous-secrétaire d'État, vous le savez sans doute, sous le Front populaire. Voilà la mère et la fille, dans leur laboratoire. Elles ont aussi, toutes les deux, vous savez, ce qu'on appelait les petites Curies, ça vous dit peut-être quelque chose, ça, c'est-à-dire qu'au moment de la guerre, Marie Curie a fait de la radiologie, en fait. Elle a fait équiper une vingtaine, vous savez, de voitures, avec donc des appareils donc de radio, parce qu'il y avait à l'époque la chirurgie, c'était quand même un peu de la boucherie, c'est-à-dire que vous aviez un éclat d'obus qui était rentré à un endroit, mais on ne savait pas où il était bloqué. Les chirurgiens, ils rentraient par où il était rentré, puis ils fouillaient jusqu'à ce qu'ils trouvaient, des fois en traversant tout le corps. Alors que si ça se trouve, il suffisait d'aller là, et puis on l'avait tout de suite. Or, seuls les rayons X de Röntgen permettaient effectivement de faire ça. C'est probablement là, d'ailleurs, qu'elle a pris les doses de rayonnement les plus fortes de sa carrière. Et sa fille, si elle est morte relativement jeune, à 50 et quelques années, c'est parce qu'à l'époque, elle avait 19 ans. Et à mon avis, c'est quand même... ils avaient beau essayer de se protéger un peu comme ils pouvaient, c'est pas si évident que ça. On les voit ici en tenue d'infirmière sur le côté. Et puis, bonne enseignante qui était Marie Curie, du coup, elle avait formé des Américains, des médecins américains qui étaient venus sur le front pour que, justement, ils deviennent des radiologues. Et quand elle a été reçue en grande pompe par les États-Unis, en fait, c'était en souvenir de ces formations qu'elle avait faites pour ces médecins radiologues. Frédéric Joliot, qui s'appelait Jean, en fait, Jean-Frédéric Joliot, vous voyez, donc ingénieur de l'école supérieure, maintenant que c'est plus municipal, c'est supérieur en physique et chimie de Paris, docteur en sciences en 30, nommé professeur de chimie nucléaire au Collège de France, et puis directeur donc d'un laboratoire de ce qui s'appelait la CNRS à l'époque, parce que c'était la Caisse nationale de recherche scientifique, avant de devenir le CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Il a été le premier haut commissaire quand on a créé le CEA après la guerre. Membre de l'Académie des sciences en 58. Vous voyez, ça, ça me fait un peu mal aussi, parce que, vous voyez, il est mort en 58. Hein. Il a eu le prix Nobel, quand même, en 35. Vous voyez, le prix Nobel en 35, et vous n'êtes même pas membre de l'Académie. C'est vraiment du copinage, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression, un peu cyniquement, j'en avais parlé avec eux à l'époque, parce que j'étais un peu mauvais, les académiciens, qui m'ont d'ailleurs pas dit que j'avais tort, dit « Oh là là, attention, là, il va bientôt mourir, donc on s'est ridiculisé avec Marie Curie, il ne faut pas qu'on se ridiculise, il faut qu'on se dépêche de le mettre à l'Académie avant qu'il meure. » quoi. Quand même, c'est n'importe quoi. Hein. Bon. Bref, les voilà au laboratoire, tous les deux. Et donc, découverte du neutron, toujours hein, donc, dans ces comptes rendus de l'Académie des sciences. Je vais aller un petit peu plus vite ici. Qu'est-ce que s'aperçoivent les Joliot-Curie ? On les appelait comme ça. D'ailleurs, même Frédéric, il signait Joliot-Curie. Hein. Il ne signait même pas Frédéric Joliot, il signait Frédéric Joliot-Curie. Et que, en bombardant, vous voyez, sur du glycinium, qui est en fait ce qu'on appelle le beryllium aujourd'hui, avec des particules alpha, cette fameuse source alpha, eh bien, il y avait un rayonnement très pénétrant, c'est-à-dire grand parcours dans la matière, et qui était insensible au champ magnétique. Or, à l'époque, un rayonnement insensible au champ magnétique ne pouvait être qu'un rayonnement électromagnétique, comme les X, comme les gamma, comme la lumière, quoi. Si vous aviez dit à l'époque, est-ce que ça pourrait pas être une particule, par hasard, que je peux peser. On aurait dit, mon cher ami, ce que vous dites va contre les plus grands principes de la raison. Insensible au champ magnétique, forcément, c'est un rayonnement électromagnétique. Ça ne peut pas être autre chose. Oui, mais alors, le parcours, je raconte, le parcours dans la matière, c'est des énergies absolument énormes qu'on n'avait jamais vues. Quoi. Donc, il suit quatre publications, vous voyez, qui font entre la fin de l'année 31 et le début de l'année 32, sur le rayonnement gamma nucléaire. Alors aujourd'hui, on sait que c'est le neutron, hein, mais vous voyez, il peut être gamma nucléaire excité dans le glucidium. Ça, c'est donc Irène. Son mari, le même jour, fait sur l'excitation des rayons gamma nucléaires par des particules alpha. Après, émission de protons de grande vitesse sur des substances hydrogénées sous l'influence de ces rayonnements gamma très pénétrants. Alors là, on n'y comprend rien, je vous dire. Si c'est une particule, ça, comme on sait aujourd'hui, c'est un problème de boule de billard. C'est-à-dire, vous avez votre neutron qui a à peu près la même masse que le proton qui arrive, bon, évidemment, l'autre, il est éjecté, parce que là, il prend de l'énergie cinétique, mais un rayonnement gamma qui expulserait des protons, c'est pas imaginable. Hein. Bon, pareil, vous voyez, en dessous, rayon gamma de très haute fréquence, ça veut dire de très grande énergie par projection de noyau léger, impossible. Donc, ces publications arrivent chez Rutherford, qui, Thomson, avait pris sa retraite. Thomson n'était pas mort encore, mais il avait pris sa retraite. Et donc, c'est Rutherford qui a dirigé le laboratoire de physique de Cambridge à ce moment-là. Et tous les jours, à 11h, il réunissait ses collaborateurs. Et les publications donc, des Joliot arrivent dans le laboratoire de Cambridge, normal. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. C'est, en termes d'énergie, tout ça, on ne pouvait pas comprendre. Et c'est là que Rutherford a la bonne phrase, le bon raisonnement. Il dit, écoutez, je connais les Joliot-Curie, ce sont des excellents expérimentateurs. Les résultats qu'ils nous donnent sont de bons résultats. C'est la vérité scientifique. En revanche, là où ils se plantent, c'est sur l'interprétation. Alors, vous allez reprendre ça, vous allez vérifier que vous trouvez bien la même chose qu'eux, et puis vous allez vous débrouiller pour me trouver une explication qui tienne la route. Mais ce n'est pas un rayonnement gamma nucléaire. Vous vous débrouillez, vous cherchez. Et c'est Chadwick, James, qui, justement, va trouver la réponse, c'est-à-dire qu'il refait les expériences, bien sûr, il retrouve la même chose, et il prend comme hypothèse, et moi, j'avais un exercice pour mes élèves, alors bon, il fallait plusieurs heures, alors il fallait avoir du temps devant soi, parce qu'on prenait d'abord comme hypothèse que tu es un gamma nucléaire, et on voyait que ça ne collait pas, et après, on prenait comme hypothèse, alors mais on est en mécanique relativiste hein, aussi, sur les trucs, donc ça, c'était un peu long, mais voilà, c'est assez facile, quoi. Si vous prenez comme hypothèse que c'est une particule neutre, ce qui était extraordinaire, révolutionnaire, mais vous voyez, eh bien, tout collait. Hein. Et donc, c'est la découverte du neutron. Rutherford, donc, avait découvert la particule positive. Du moins, il avait dit que le noyau d'hydrogène, on le retrouvait dans tous les noyaux de la classification et que donc, ce n'était pas un noyau en tant que tel, le noyau d'hydrogène, mais c'était une particule dite fondamentale à l'époque. Et c'est lui, on est en 1918-19 même là. Eh bien, Chadwick, lui, découvre l'autre particule, le neutron. D'ailleurs, voilà, on les avait là tous les trois. Ah oui, ce sont quand même... ce sont des découvertes anglaises. Hein, on est en anglais, mais enfin, c'est grâce aux Français qui leur avaient offert les sources de rayonnement, d'accord, mais bon. Tous les trois du laboratoire, d'ailleurs, de Thomson, de Cambridge, hein, de physique de Cambridge. Hein, Thomson, Rutherford et Chadwick. Alors évidemment, c'est une découverte qui reste un peu en travers de la gorge des Joliot-Curie, quand même, parce que c'est grâce aux expériences qu'ils avaient faites que les Anglais ont pu découvrir, mais quand même, bon. Alors, vous savez, à l'époque, il y avait des conférences, ça s'appelait les conférences Solvay, que M. Solvay, qui s'était enrichi avec son procédé donc sur la potasse, et du coup, il recevait tous les savants du monde entier assez frais chez lui en Belgique pour qu'il fasse avancer la science. En fait, les ancêtres des congrès d'aujourd'hui. Bon, ce qu'il y a, c'est que même aujourd'hui, dans les congrès, si vous voulez, il ne faut pas trop dire ce sur quoi vous êtes en train de travailler, parce qu'encore une fois, tout le monde en est à peu près au même point. Et l'intérêt des congrès, c'est en fait au bar de l'hôtel le soir. Au troisième whisky, vous commencez, si vous tenez mieux le whisky que les autres, vous commencez à savoir sur quoi ils travaillent et tout. Et c'est là qu'on apprend des choses. Hein. Moi, j'ai légué mon foie à la recherche scientifique. Hein. Et donc, je me souviens d'un soir, d'ailleurs, où mon collègue à côté dit bah, « Attends, là, il est en train de nous dire qu'il travaille là-dessus depuis 5 ans ». Hier, je lui en ai parlé, il ne comprenait rien, les molécules, il a fallu que je lui écrive la molécule, il ne savait pas ce que c'était, il vient de nous dire que ça fait 5 ans qu'il travaille dessus. Ben, j'ai dit, tu vois, après 3 whisky, c'est bon. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Mais bon, il ne faut pas trop dire. Alors, dans ces congrès, alors vous avez bon, du beau monde, hein, bien sûr, ils sont tous là. Hein, il n'y a qu'une femme, pendant très très longtemps, il n'y a qu'une femme, c'est Marie Curie. Hein. Donc là, on est en 1911, hein, vous voyez Einstein, là, qui est à l'extrême, là, qui est, je ne sais pas si ça, ça... Oui, voilà, ici, hein, bon, Henri Poincaré à côté, Marie Curie, vous voyez ici, bon. Henri Poincaré, il est là, à côté de Marie Curie, là, ils sont en train de discuter tous les deux. Hein, et puis, Paul Langevin est ici. Hein, bah, Rutherford, il est jeune, là, voilà, il est là, Rutherford, je pense, je me trompe pas, c'est bien lui. Bon, et donc après, vous avez, par exemple, ici, 1927, alors ils ont un peu blanchi sous le harnais, quand même, hein, mais il n'y a encore qu'une femme, hein, Marie Curie, qui est là. Et on arrive à celle qui nous intéresse dans ce que je veux dire, qui date de 1933. Alors là, il y a 3 femmes, en fait. Alors, il y a quelque chose de triste. Hein, c'est la dernière fois, c'est le 7e congrès, elle n'en a raté aucun, mais c'est la dernière fois que Marie Curie vient au congrès, puisqu'elle va mourir l'année suivante. Bon. Mais la relève est assurée, parce que là-bas, vous avez sa fille, qui est là, son gendre, qui est là derrière, des petits jeunes, hein. C'est important pour ce que je vais vous dire tout de suite. Et puis, vous avez Lise Meitner, qui est ici. Donc, il y a 3 femmes. Hein. Et donc, à ce congrès, évidemment, on est en 33, la découverte du neutron, c'est 32. Donc, tout tourne autour du neutron. Et puis, Frédéric et Irène, Joliot-Curie, ben, ils montrent des résultats, leur fameux rayonnement très pénétrant, ils disent « Ok, on a compris, c'est plus du gamma, c'est bien un neutron. Et ils disent, ben, quand on bombarde de l'aluminium, en fait, avec des alpha, eh bien, on obtient un neutron. Alors, tous les vieux qui sont là, prix Nobel et tout ça, ils se regardent tous, et qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter? Si c'est du phosphore, si c'est un neutron, c'est que c'est du phosphore, hein, l'élément 15, hein, 13 plus 2, ça fait 15. Et si c'est du phosphore, c'est du phosphore 30, comme on le voit ici en termes de masse. Et ils disent quand même, phosphore 30, ils devraient savoir que ça n'existe pas. Le phosphore 30, ça n'existe pas. Donc ça ne peut pas être un neutron qui est émis, puisque le phosphore 30 n'existe pas. Reprenez vos trucs, vous allez voir qu'en réalité, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, c'est un proton qui est émis et pas un neutron. Et si c'est un proton, vous avez du silicium. On y manque 14. Silicium 30, c'est ça, mes chers amis, ça existe le silicium, mais pas phosphore. Donc il faut que vous retourniez un petit peu à l'école pour que vous racontiez pas n'importe quoi. Bon, alors, ça les perturbe, c'est vrai, ils sont d'accord, le phosphore 30, ça n'existe pas, mais n'empêche qu'ils n'ont peut-être pas vu de phosphore 30 pour l'instant, mais le neutron, c'est bien ce qu'ils ont vu, quoi. Alors, est-ce que c'est ça ou l'autre ? Bon. Entre-temps, vous voyez, c'était tous des jeunes à l'époque, hein, quand vous voyez les photos à l'époque, bon, voilà, vous avez ici Anderson, il a découvert, en fait, ce que s'appelle le positon, c'est-à-dire, c'est le jumeau de l'électron, sauf que l'électron, il est négatif, mais lui, il est positif, c'est la seule différence. Et c'est l'anti-électron, quoi. Même masse, même charge, sauf qu'elle est positive, elle doit être négative. Bon, alors du coup, les Joliot reviennent à la charge et ils disent, ben écoutez, voilà, nous on est sûr que c'est un neutron. Vous, vous voulez que ce soit du silicium. Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas que le neutron qui est émis, il y a aussi un positon. Comme ça, vous avez votre silicium, nous on a notre neutron, tout le monde est content. Alors là, grand silence. Incrédulité générale. Vous voyez, dans les mémoires, ici, Frédéric et Angelo Creed, et finalement, la grande majorité des physiciens présents, il est gentil quand il écrit ça, ne crurent pas à l'exactitude de nos expériences. Seuls Bohr et Pauli nous apportèrent des encouragements. Alors, vous savez, quand c'est ça, moi, ça m'arrive aussi dans les congrès, quand vous voyez des jeunes qui se plantent, vous allez les voir, puis vous leur dites, bon, écoutez, c'est bien, vous avez bien travaillé, mais enfin, reprenez vos trucs. C'est un peu ça qui s'est passé. Ils y croyaient pas plus que les autres, quoi. Et on arrive le 11 janvier 1934. J'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps, je pense que vous l'avez reçue. Ça faisait 80 ans pile poil, donc j'ai dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. 11 janvier 1934, il est 15h. On croirait Pierre Bellemare qui raconte ses histoires. Et donc, Joliot a repris ses expériences. Bon, donc il continue à bombarder de l'aluminium, avec son rayonnement alpha. Bon, il note ses résultats et tout. Le soir, il sortait avec Irène, donc il ne peut pas continuer trop longtemps. Et donc, il a bien à la fois des neutrons et il a un détecteur à positons. Et son détecteur à positons, il crachouille. Il a bien aussi des positons. Bon. Une fois qu'il a fini tout noter, donc il augmente la pression en son sein, c'est-à-dire pour éviter aux alphas d'arriver jusqu'à sa feuille d'aluminium. Donc, la manip s'arrête. Ça s'arrête, c'est fini, l'expérience est finie. Mais le compteur continue à crépiter. Frédéric Joliot avait une phrase que moi, j'ai inculquée à mes élèves, qui était « Quand on fait de la recherche, il faut toujours laisser la porte ouverte. » C'est-à-dire qu'au fait de la recherche, vous êtes en train de chercher quelque chose, mais il ne faut pas vous interdire de trouver quelque chose que vous ne cherchez pas. Il faut laisser la porte ouverte. La porte ouverte, là, vous voyez ce que c'est ? Il a fini sa manip. Pourquoi est-ce qu'il laisse son compteur ? C'est idiot ! La manip est finie. Laissons la porte ouverte. Eh bien, le compteur, il continue à crépiter alors qu'il n'y a plus rien. Et puis en plus, vous voyez, cette émission, elle décroît de façon exponentielle comme s'il y avait une radioactivité. Mais laquelle ? Je le rappelle, ça arrête à l'uranium, la radioactivité. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y comprend rien. Et comme il doit sortir le soir, alors il demande à un jeune chercheur du laboratoire, un chercheur allemand, qui était donc dans le laboratoire, Gentner, qui était un spécialiste détecteur, il dit « Écoute, Gentner, tu vérifies là le détecteur, parce que soit il déconne complètement, soit s'il fonctionne correctement, eh ben c'est le prix Nobel, parce que là, derrière, on a un truc terrible. » Et donc, on arrive au 12 janvier, le lendemain, quand ils arrivent, vous voyez, ils viennent de faire, effectivement, deux découvertes majeures, puisqu'ils trouvent un mot de Gentner, vous voyez, le détecteur fonctionne parfaitement. Un, ils viennent de démontrer donc qu'il est possible de provoquer artificiellement, ce qu'on n'avait jamais fait, une radioactivité dans des éléments stables, comme l'aluminium. Et deuxièmement, ils viennent de découvrir un nouveau type de radioactivité, l'émission de positons. Et du coup, cette radioactivité s'appelle bêta plus. Et l'autre, qui, depuis plus de 20 ans, s'appelait bêta, eh bien, c'était terminé, parce qu'il fallait distinguer. Elle s'est appelée, de ce jour-là, bêta moins, pour faire la différence avec bêta plus. On a, en fait, deux types de radioactivité différentes. Et donc, ils auront, vous voyez comme ils sont beaux là au milieu, ils auront le prix Nobel, donc on va donner le prix Nobel de chimie en 1935. Alors en fait, ils avaient raison, Eh bien, ils avaient raison. C'est-à-dire que ça se découpait en deux réactions. La première, il y avait bien ce phosphore 30, inconnu sur la planète, c'est vrai, mais il avait été créé après le Big Bang dans les étoiles. C'est une autre conférence que je pourrais vous faire un jour, si vous voulez, sur la nucléosynthèse, comment on fabrique tous les éléments par des réactions nucléaires dans les étoiles. Donc, phosphore 30 se fabrique, mais comme il a 2 minutes et quelques de période, eh bien, évidemment, au bout de 2 minutes, il ne reste plus que la moitié. Quand vous êtes 15 milliards d'années après, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Et là, on venait de les recréer, cette radioactivité. Et donc, phosphore 30, élément radioactif, qui éjecte un positon et donc donne du silicium 30. Lui qui était connu sur la planète. Alors, c'est bizarre, c'est une découverte de physique. Pourquoi prix Nobel de chimie? Alors, bon, il faut voir que il y avait de la tension quand même dans la communauté scientifique à l'époque, parce que les Joliot-Curie n'avaient pas digéré l'histoire de Chadwick et de son neutron quand même. Bon. Donc le jury Nobel a dit, bon, on va donner le prix Nobel de physique à Chadwick, c'est clair, mais si on ne fait pas quelque chose pour les Joliot à côté, on va avoir des soucis, quoi. Bon. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'il démontre qu'il y avait du phosphore 30, que le phosphore 30, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait une durée de vie très courte, hein, et que c'était donc par des méthodes de chimie particulières qu'avait d'ailleurs inventé Marie Curie, que avait repris Irène. Frédéric Joliot est un physicien, mais Irène est une chimiste, comme je vous l'ai dit. Donc c'était grâce à ces techniques nouvelles extrêmement rapides qu'ils avaient pu montrer qu'il y avait bien du phosphore 30. Alors, bon, le comité Nobel a dit, voilà, dans sa grande sagesse, donc on va leur donner le prix Nobel de chimie, dans le prix Nobel la même année, ils étaient contents. Petit clin d'œil aux collègues, le monsieur que vous voyez là-haut, toujours des jeunes, hein, encore une fois, c'est Ernest Lorentz. Et Lorentz, donc, le premier homme à avoir fabriqué un cyclotron. Et dans sa publication de découverte d'une nouvelle radioactivité, Joliot écrit « Il est sans doute possible de créer d'autres radioéléments, donc des nouveaux radioéléments à partir d'éléments stables, en bombardant des corps avec des deutons, par exemple. Des deutons, c'est le noyau de deutérium, hein, j'ai un proton et un neutron qui sont collés. » La publication arrive donc à Berkeley, chez Lorentz. En fait, c'est un de ses thésards qui tombe dessus, si vous êtes la biblio. Quand il voit ça, il dit « Oh là là, il faut que j'aille montrer ça à mon patron, là-haut, c'est bizarre. » Lorentz lit la publication, il dit « Quand Joliot écrit ça, il pense à moi. Parce que je suis le seul être au monde à être capable de bombarder avec des deutons. » Il regarde la publication, il dit « Oh, attends, quand même, si vraiment les Joliot ont raison, si juste comme ça, en bombardant X alpha, ils obtiennent un élément, ben nous, ça fait des années qu'on fait ça, on l'aurait vu. » Et il regarde ses expériences. Mais lui, en fait, il avait fermé la porte. C'est-à-dire que quand il arrêtait son cyclotron, il arrêtait aussi tous les détecteurs qui étaient tous branchés sur le même disjoncteur. Il dit, c'est pas vrai, on n'a pas été aussi bête que ça, c'est pas possible, quoi. Donc il dit, on va la refaire une fois, on va mettre les détecteurs sur un autre disjoncteur et on va couper la manip, on va regarder. Et bien, il coupe la manip et il voit les détecteurs qui crépitent. Ça faisait des années qu'il faisait ça. Des années qu'il aurait pu faire la découverte. Eh bien oui, mais il avait fermé la porte. Voilà. Il aura le prix Nobel pour autre chose, hein, mais pas pour ça en tout cas. Voilà, c'est la fin de la découverte. Vous voyez, cette fois-ci, les Joliot-Curie montrent, il me reste juste, mais j'en ai pas pour très très longtemps, la fission, parce que je vais parler de la fission, que c'est un phénomène qui concerne toute la classification périodique. Voilà. Et pas seulement, effectivement, soit s'arrêter à l'uranium, soit à l'uranium lui-même. C'est tout, tous les éléments de la classification sont concernés. Marie Curie, quand même, dans son deuxième discours Nobel, vous voyez, avait dit « Des découvertes récentes ont montré que le potassium et le rubidium émettent un rayonnement très faible, semblable au rayonnement bêta de l'uranium et du radium. Nous ne savons pas encore si nous devons envisager ces substances comme des corps radioactif, c'est-à-dire en voie de transformation atomique. » Bon, elle le signale, mais elle ne se mouille pas et elle avait raison. C'était ça. Donc la classification, vous voyez, en fait, bon, il y a des éléments qui sont uniquement radioactifs, mais tous ont des isotopes radioactifs. Et les bleus sont les naturels pour nous, et les artificiels, c'est les verts. Mais pas forcément artificiels dans la nature. Hein. Le technétium, le prométhium sont des éléments qu'on voit dans les étoiles, mais ils ont disparu de la planète. L'homme les a recréés. Donc, je vais passer au dernier point, découverte de la fission. Parce que ça aussi, vous allez voir, c'est assez amusant comme découverte. Déjà, le noyau, personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'un noyau pouvait se casser en plusieurs morceaux. C'était pas imaginable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, vous avez évidemment la mort de Marie Curie, donc elle a vu la découverte quand même. Hein. Elle a vu la découverte de ses enfants. Elle n'a pas vu le prix Nobel, mais elle a vu cette découverte de l'intelligence artificielle avant de mourir quand même. Donc, puis maintenant, donc, elle est au Panthéon avec son mari, comme vous le savez. Et les acteurs donc, de cette dernière découverte de la fession, ils sont là. Bon, bien sûr, Chadwick pour le neutron. Enrico Fermi, vous allez voir le rôle qu'il a. Et ensuite, vous avez deux chimistes, Otto Hahn, chimiste allemand, et Irène Joliot-Curie. Et Lise Meitner, qui est une chimiste et qui a travaillé avec Otto Hahn pendant à peu près 25 ans. Donc ce neutron, en fait, c'est une particule idéale pour aller bombarder n'importe quel noyau, parce que comme il n'a pas de charge, si vous voulez, il n'y a pas de répulsion. Hein, quand vous avez un proton, vous avez la répulsion, il est repoussé. Mais là, le neutron, lui, à condition qu'il aille suffisamment lentement pour être absorbé hein, et qu'il ne rebondisse pas, eh bien, vous faites des nouveaux noyaux, puis vous regardez ce que ça donne. Et donc, je vais passer ça, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un noyau stable qui va absorber un neutron, eh bien, il va donner l'élément suivant. Donc, du fer, vous allez le transformer en cobalt, du cobalt en nickel, du nickel en cuivre, etc. Bon, et puis, c'est Enrico Fermi qui s'amuse à ça. Depuis 1934, il bombarde tous les éléments de la nature. Il dit, ça me faut des publications. Et puis, jusqu'au jour où il se dit, mais je perds mon temps. Je perds mon temps, c'est idiot. Le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne le dernier élément de la classification, le 92. Je le bombarde avec des neutrons. Il devient excédentaire en neutrons. Il transforme un neutron en proton. Et je fabrique l'élément 93, inconnu. Et je suis le premier homme à fabriquer l'élément 93 et j'ai le prix Nobel. Et c'est là que les ennuis de ce pauvre Enrico commencent. Voilà ce qu'il pense qu'il va faire. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, c'est que dans l'uranium, vous avez deux sortes d'uranium. Et il y en a un qui, quand il absorbe le neutron, le 235, se transforme en noyau plus petit. Et ces noyaux plus petits, je ne sais pas si je l'ai mis derrière, là, voilà, par exemple, c'est tout ce qui est vert. Vous voyez, vert, orange et violet, vous créez tout ça. Hein, ça, c'est mon cours sur le combustible usé. Donc, il y a aussi les trucs d'activation. Regardez pas les jaunes. Mais vous voyez, tout ce qui est vert, c'est-à-dire que vous récupérez par la fission tout ce qui est vert, rouge et orange. C'est-à-dire que vous avez toutes les propriétés chimiques de la classification. Or, comment est-ce que on peut vérifier que Fermi vient de créer un élément nouveau? Eh bien, uniquement par la chimie. C'est-à-dire que vous bombardez de l'uranium, vous avez les propriétés chimiques de l'uranium. Vous le bombardez, après vous regardez les propriétés chimiques que vous avez. Puis vous avez celle de l'uranium plus celle d'un autre élément. Ah ben vous avez créé un nouvel élément. Mais là, quand on fait ça, on a tout, toute la chimie possible et imaginable. Donc personne ne comprend rien. Surtout pas Fermi, qui d'ailleurs est un physicien et pas un chimiste. Il n'est donc pas capable de faire la chimie et il la sous-traite, entre guillemets, à des chimistes. Et il dit les chimistes sabotent ma découverte en me disant qu'ils n'y comprennent rien. Mais les chimistes, ils ne comprennent rien, évidemment. Hein? Donc, les trois derniers, vous voyez, ils sont là. C'est Lise Meitner et Irène Joliot-Curie, deux femmes, deux chimistes, et Otto Hahn, un physicien. Là, je vous l'ai montré. Donc, évidemment, tous les laboratoires européens s'en mêlent. Et comme la langue française est bien faite, vous voyez, les laboratoires européens s'en mêlent. Ah ben oui, il faut suivre. Hein. Donc, première, comme il y a plein de propriétés chimiques, la première hypothèse, vous voyez, c'est de dire, bon, il n'a pas trouvé l'élément suivant, mais il a trouvé les quatre autres, et avec leurs descendants, etc., ça explique qu'on ait une foultitude de propriétés chimiques. Alors, vous voyez, on leur donne des noms en équivalent au-dessus, c'est-à-dire écarénium, écaosmium, écairidium et écaplatine. Éca voulant dire ayant les mêmes propriétés qu'eux. Mais bon, ça colle pas vraiment. Alors, deuxième hypothèse, on se dit, ben, si ça se trouve, peut-être qu'on a aussi les descendants de l'uranium, et ça expliquerait qu'on ait toutes ces propriétés-là, surtout que Otto Hahn dit, lui, qu'il a vu, puisque c'est un chimiste, qu'il a vu du radium. Alors, vous savez comment on voyait du radium à l'époque? On en était encore avec les méthodes de Marie Curie, c'est-à-dire qu'on faisait précipiter du barium, et si ce barium était radioactif, il avait entraîné le radium. Donc, en fait, il avait du barium radioactif et pour lui, donc, il avait du radium. Tout comme s'il avait du bismuth radioactif, il aurait du bismuth et du polonium. Donc, il dit, moi, j'ai du radium. Deuxième hypothèse. Troisième étape décisive, Irène Joliot-Curie, à Paris, à l'Institut du radium, dit, mais moi, je vois du radiolanthane. Alors, le lanthane, vous voyez où il est, le lanthane, hein, c'est l'élément 57, hein, c'est-à-dire beaucoup plus petit que l'uranium, quoi. Alors, les autres disent, bon, elle raconte n'importe quoi. En fait, elle voit l'élément d'en dessous, c'est-à-dire l'actinium, hein, et Otto Hahn va même jusqu'à se moquer d'elle, il appelle ça le curiosum. C'est un joli jeu de mots entre Curie et osum. C'est-à-dire, ah ben voilà, tiens, Irène, elle a inventé le curiosum, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et il lui dit, je vais lui montrer qu'elle a tort, puisque moi j'ai dit que j'avais du radium, parce que j'ai du radium, du barium radioactif, du radium, je vais isoler le radium de mon barium. Et je vais lui montrer que j'ai bien du radium et qu'elle se fout de nous, qu'elle, elle a en fait de l'actinium et pas du lanthane. Ah bah tiens, c'est son barium qui est radioactif. Il n'y a pas de radium. Ah, et ce jour-là, la découverte, elle est là. Mais vous voyez, c'est Irène au départ. Si Irène n'avait pas dit, moi, j'ai du lanthane et pas de l'actinium, du lanthane, eh bien, Otto Hahn n'aurait pas fouillé comme ça son expérience pour arriver jusque-là. Et donc, on en arrive à la publication du 22 décembre 1938 de Otto Hahn et Fritz Strassmann. Alors, Fritz Strassmann a remplacé Lise Meitner, hein, qui travaillait jusque-là avec Otto Hahn. On est en 1938, fin 38, période troublée. Hein. Donc, Lise Meitner était donc d'origine de confession juive. Tant qu'elle était autrichienne, elle était protégée en Allemagne par son statut d'autrichienne, jusqu'au jour où les nazis rentrent dans son laboratoire, dévastent tout. Donc quand même, elle, c'était une grande savante, avec beaucoup d'autorité et tout. Elle dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» et tout. Elle dit « Ah, sale juif, tais-toi, etc. » Elle dit « Mais je suis autrichienne. »« Ah ben oui, ben, t'écouteras la radio ce soir. C'est l'un de choses. » Et d'ailleurs, t'en as plus pour longtemps. Eh bien, cette femme, qui était quand même déjà relativement âgée, dit ça à Otto Hahn. Et il y avait un jeune chercheur danois, un jeune physicien qui était venu dans le laboratoire, qui avait une voiture. Et Lise Meitner part cachée dans le coffre, je ne sais pas si vous imaginez, cette femme qui a quand même déjà un certain âge, cachée dans le coffre de la voiture. Heureusement, à la frontière, le coffre n'est pas ouvert, donc le Danois rentre chez lui, et Lise Meitner donc se réfugie chez Niels Bohr, la grande famille du nucléaire, n'est-ce pas ? Chez Niels Bohr, qui l'accueille, et vous allez voir la suite de l'histoire, elle est là. Et donc Fritz Strassmann remplace donc Lise Meitner. Il arrive au bon moment, on peut dire, mais enfin bon. Et donc la publication, elle est dans Naturwissenschaften, et vous allez voir, on avance prudemment. Sur la mise en évidence et le comportement de métaux alcalinaux terreux lors de l'irradiation d'uranium par des neutrons. En accord avec Irène Curie. Ah, vous voyez, là, ils sont d'accord maintenant. Hein, en accord avec Irène Curie. Il faut lire là, les phrases, d'ailleurs, c'est assez amusant. Et en tant que chimiste, nous devrions renommer le schéma proposé et mettre les symboles barium, lanthane et cérium à la place de, c'est-à-dire les descendants d'uranium, radium, actinium et thorium. C'est-à-dire, en tant que chimiste, voilà ce qu'on trouve. Mais en tant que, et les guillemets y sont dans la publication, hein, en tant que chimiste nucléaire, proche d'une certaine manière de la physique, là, s'ils disent, nos copains physiciens, ils vont nous tomber sur le rab, je ne vous raconte pas, quoi. Bon. En tant que proche d'une certaine manière de la physique, nous ne sommes pas encore prêts à franchir ce pas, contraire à toutes les expériences connues à ce jour en physique nucléaire. Il serait encore possible, mais enfin on sent qu'ils n'y croient pas, hein, il serait encore possible malgré tout qu'une série d'improbables coïncidences ait entaché d'erreurs nos résultats. Ils disent parce que là, quand ça va sortir, ça, on va se faire laminer, quoi. Entre-temps, Fermi, qui en a, en fait, je vous dis, ça fait des mois, qu'il insulte tout le monde en disant « Vous salopez, j'ai découvert les éléments après l'uranium et vous, les chimistes, vous sabotez ma découverte et tout. » Il a eu le prix Nobel quand même pour autre chose. Lui, c'est sa femme, hein, Laura Fermi, qui est juive. Et donc, vous voyez, là, quand il reçoit son prix Nobel, il est le seul avec sa femme à savoir qu'il ne remet plus les pieds en Italie. Il a eu la chance que Mussolini accepte qu'il aille chercher son prix Nobel avec sa femme et ses enfants, et il part direct aux États-Unis, là. Et il n'a rien pris comme bagage, il a tout laissé sa maison comme ça en disant « Bon, on revient dans quelques jours », mais il fiche le camp aux États-Unis, où d'ailleurs il va faire la première pile, hein, la pile de Fermi, 2 décembre 1942. Hein. Et alors, ce jour-là, il se lâche, et alors, vous voyez, il dit une énorme bêtise, énorme. Il dit « Ben, En fait, j'ai découvert deux nouveaux éléments, les éléments 93 et 94, alors que c'est faux, hein, bien sûr, et il leur donne même des noms et des symboles, vous voyez, ozonium et hesperium. Ozonium, c'est le nom poétique de l'Italie, et hesperium, c'est le nom grec. Et mais c'est pas parce que c'est complètement faux, quoi. Mais bon, il a le prix Nobel, il fait son discours Nobel. Vous pouvez aller, hein, vous tapez conférence Nobel Fermi, vous allez trouver tout le texte. Vous allez voir d'ailleurs qu'il dit du mal des chimistes, il en profite, il se lâche aussi là. Et donc voilà. Résolve l'énigme. Et alors, donc, Lise Meitner, donc, elle est réfugiée chez Niels Bohr. Vous avez vu, la publication est du 22 décembre. Noël approche. Et Otto Frisch, qui est un très grand physicien nucléaire aussi. Là, c'est une photo quand il est jeune. Moi, je l'ai connu quand il était vieux, mais évidemment, bon, on n'a pas les mêmes photos, hein, c'est sûr. Il parlait très bien français, d'ailleurs, Otto Frisch. Et c'est le neveu donc, de Lise Meitner. Et il vient passer Noël avec elle. Elle vient de recevoir, alors il raconte, il dit, je la vois très perplexe, elle a une lettre à la main, et elle vient de recevoir la publication d'Otto Hahn, et il dit, tiens, elle lit ça. Donc Otto Frisch lit, il dit, bah, pff, c'est vraiment n'importe quoi, hein, parce que alors là, vraiment, alors... Et elle lui dit, écoute, j'ai travaillé 30 ans avec Otto Hahn, je le connais très bien, c'est un très bon physicien, très bon expérimentateur, et surtout, extrêmement prudent. S'il écrit ça, c'est que c'est vrai. On n'y comprend rien, je suis d'accord avec toi, on n'y comprend rien, mais c'est vrai. Et il dit, bah, écoute, tiens, il fait beau, alors, il raconte une belle journée, il dit, tu chausses tes skis, on va faire un peu de ski, puis on réfléchit. Et à un moment donné, il dit, tiens, arrête-toi. Alors, il y avait un sapin, là, couché, on s'arrête. Et elle dit, bah, écoute, c'est simple, le seul truc à faire, on va regarder la masse de notre action nucléaire avant et après. Et si la masse après est plus faible que la masse avant, c'est qu'il y a de l'énergie qui se dégage. Si l'énergie se dégage, je ne te dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une très forte probabilité. Alors, il dit, on est très vite rentré au chalet, on a fait les calculs, eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une différence de masse, ce fameux défaut de masse, une réaction nucléaire, et que donc, c'était probablement la bonne réponse, même si c'est incompréhensible qu'un gros noyau puisse fissionner en deux. Donc, vous voyez, voilà, cette découverte de la fission. Alors, peu de temps après, hein, c'est Flerov qui va découvrir la fission naturelle, elle, parce que c'est un phénomène, un processus naturel de désintégration des très gros noyaux, mais il faut que le noyau soit ce qu'on appelle pair-pair, c'est-à-dire nombre pair de protons, nombre pair de neutrons, ce qui est le cas de l'uranium-238, hein, 92-238, donc, c'est ce que devient l'uranium-235 quand il capture un neutron, puisqu'il devient 92-236 pair-pair. Peu de temps avant, encore du bien des femmes. Vous avez dit ce soir, je dis bien de toutes les femmes, je ne sais pas combien, un tième, là, celle-là. Ida Noda, qui était une chimiste, et elle a découvert le rhénium, donc c'est quand même une bonne chimiste. Et elle avait écrit, quand même, en 1934, c'est assez bizarre, lors de désintégration nucléaire provoquée par un neutron, il serait concevable que ces noyaux se brisent en plusieurs gros morceaux qui seraient certes des isotopes d'éléments connus, mais sans être voisins de l'élément irradié, ce qui est exactement le cas. Et plus tard, vous voyez, c'est la fameuse réaction en chaîne, ben, c'est Joliot-Curie, quand même, Frédéric, qui va intervenir dans cette réaction qu'on connaît bien. Alors, c'est la famille aussi prix Nobel. J'en ai terminé, là. Juste deux mots, quand même, parce que on dit que les Curie, c'est la famille aussi prix Nobel. Mais quand vous regardez bien, Marie Curie a eu deux prix Nobel. Pierre, 1, Irène, 1, Legendre, 1, ça fait que 5. Alors le sixième, bon, c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais c'est justement Ève, la petite fille que vous avez vue, le bébé que vous avez vu tout à l'heure, qui est morte, vous voyez, en 2007. Elle est née en 1904. Et qui avait suivi sa mère quand elle a été reçue par les Américains en grande pompe, qui lui a offert d'ailleurs un gramme de radium. Alors Marie Curie, elle pleurait d'émotion. Moi, je dis qu'elle ne devait pas vraiment pleurer d'émotion parce qu'en fait, à l'époque, les Curie, Pierre et Marie Curie, avaient dit « on ne brevette rien parce qu'il faut que la recherche serve à tout le monde ». Oui, mais les Américains, eux, ils ont breveté, eux. Et après, Marie Curie devait racheter en Amérique le radium parce que c'était breveté et brevet américain, hein, sur des méthodes qu'elle avait, elle, découvertes. Bon. Donc, il pouvait bien lui offrir un gramme de radium. Hein. Bon. Et donc, elle est restée aux États-Unis et elle a épousé d'ailleurs un Américain, mais qui a un nom bien français, voyez, Henri Labouisse. Et Henri Labrisse était le président de l'UNICEF lorsque l'UNICEF a reçu le prix Nobel. C'est-à-dire qu'elle est allée là-bas, donc un peu comme sa sœur et son beau-frère et ses parents. Donc on a l'habitude de dire voilà, c'est le sixième prix Nobel de la famille. C'est pas tout à fait vrai, hein, mais bon. Voilà, c'en est terminé. Alors tous ces acteurs, évidemment, vous les retrouvez ayant donné leur nom, puisque vous avez eu une conférence par M. Fournier sur la classification périodique. Vous avez le curium, vous avez l'einsteinium, vous avez le fermium pour Enrico Fermi, vous avez le mendelevium, quand même Mendeleïev, donc le premier qui fait ça, nobelium, parce que quand même, ils ont tous eu le prix Nobel, donc ils n'ont pas été ingrats jusqu'au bout, Lorentz, hein, Lorentzium, donc l'élément 103, et puis après, vous avez Rutherfordium, Seaborg, voilà, qui montre, vous voyez ici, ici son élément, donc le Niels Bohrium. Alors ça, si c'est une histoire, borium, pardon, c'est une histoire, c'est ma langue qui fourche, parce que quand je faisais partie de cette commission, justement, on voulait l'appeler borium. Et puis moi, je disais quand même, borium, il y a le boron en anglais, ça se ressemble beaucoup. Vous avez la chance qu'il ait un prénom et un nom court. Appelons-le Niels Bohrium, symbole NS, ça serait mieux que borium. Et d'ailleurs, vous voyez ici, je suis quelque part là-bas dans le fond, là, le petit blond, là, avec l'affiche Niels Bohrium. Et puis la fois d'après, j'y étais plus. Les Américains voulaient l'appeler borium, il s'appelle borium. Ils sont revenus là-dessus. Lise Meitner, vous avez le meitnerium, qui est l'élément donc 109. Et puis vous avez Röntgen. Et assez curieusement, 110, alors là, ça dénote, mais c'est bien. C'est Copernic, le copernicium, Copernic qui arrive là. Bon, c'est pas un physicien nucléaire, là. Et après, alors c'est pas encore tout à fait sûr, mais le suivant devrait s'appeler flerovium. Alors on sait pas encore le symbole, si c'est FL ou FV. Donc, vous voyez, ils sont quand même beaucoup, beaucoup ici. Et puis, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, après. Et puis, si vous voulez, la dédicace pour le livre est gratuite, pour ceux que ça intéresse.
Je vous avais dit qu'il était bon. Hein. Donc, vous avez bien fait de venir. Et vous ferez la honte à ceux qui ne sont pas venus. Voilà. Y a des questions ? Oui ?
Qui aurait dû être Super Phénix. Et cette étude aurait été reprise par les Japonais. Est-ce que vous avez de nouvelles de cette étude ?
Alors moi, j'ai dirigé aussi un laboratoire de recherche hein, pendant 25 ans, et j'ai travaillé là-dessus. Oui, moi, j'ai montré que c'était possible. C'est ce qu'on appelle la séparation-transmutation. C'est un des axes de la loi, d'ailleurs. Hein. Il y a trois axes dans la loi. Moi, je ne crois pas au stockage à centaines de millions d'années. Non pas sur un plan technologique, à la rigueur, mais dire aux populations qu'elles vont accepter, qu'on mette ça en disant « braves gens, vous pouvez dormir, il ne se passera rien », compte tenu de la façon dont on vous présente toujours l'énergie nucléaire, la radioactivité, etc., je ne crois pas beaucoup. Moi, mon programme de recherche, j'ai 140 brevets, hein, enfin, donc au CNAM, des chercheurs qui trouvent quand même, hein, donc... Et nous, moi, j'ai toujours... Justement, l'histoire de Marie Curie m'avait profondément choqué sur les brevets et les publications. Donc, chez nous, on a breveté. Hein, au CNAM, on brevette. On fait aussi des publications, mais on brevette. Et j'ai montré que c'était possible de ramener cette radioactivité à la radioactivité naturelle, parce qu'on ne peut pas... Radioactivité zéro, ça n'existe pas. La radioactivité naturelle en 300 ans. Alors, vous allez me dire, 300 ans, c'est beaucoup. Mais 300 ans, c'est gérable. Vous pouvez dire, on sait gérer des choses sur 300 ans. Vous ne pouvez pas dire que vous savez gérer des choses sur 400 millions d'années, parce que ça, évidemment, on ne l'a jamais fait. Bon. Mais sur 300 ans, c'est possible. Et donc, c'est un axe. Il n'y a pas que les Japonais qui travaillent là-dessus. Hein.
C'est possible, parce que
oui, c'est possible.
Si finalement c'était possible, l'énergie nucléaire deviendrait une énergie tout à fait propre.
Bah, oui et non, quand même. Il faut éviter les genres d'accidents comme Fukushima ou Tchernobyl aussi. Hein. Ça, c'est un autre aspect encore. Hein. Bon. Alors, vous trouverez dans le bouquin, le chapitre 24, je sais que c'est le chapitre 24, parce qu'une fois, assez curieusement, il y avait une équipe qui voulait tourner un film sur le nucléaire, et ils voulaient aller donc à l'ANDRA, et je connais bien la directrice générale de l'ANDRA, Et donc, je lui demande l'autorisation pour que l'équipe vienne tourner. Donc, elle m'envoie un mail que j'ai évidemment gardé, où elle me dit « Bien sûr, Monsieur Fauss, il n'y a aucun problème pour qu'une équipe de tournage vienne et vont où ils veulent. En revanche, je n'ai pas du tout aimé votre chapitre 24 sur la gestion des déchets radioactifs, parce que l'Andra a décidé de les stocker en profondeur, point final, etc. » Bah voilà, on n'est pas d'accord. Ça prouve mon indépendance, du coup. Hein, vous voyez, bon. Parce que dans ce chapitre-là, j'ai montré qu'il y avait d'autres alternatives, effectivement. Alors, c'est quoi la transmutation, en réalité ? C'est... On ne sait pas jouer sur la période radioactive d'un noyau. Pas moyen. Ça échappe à tout. Mais ce qu'on peut faire, c'est tricher, entre guillemets, c'est-à-dire transformer un noyau à vie longue en noyau à vie courte. Ce n'est pas le même noyau, mais voilà, vous faites ce qu'il faut pour qu'il soit transformé en vie courte. Et moi, dans tout ce que j'ai montré, alors évidemment, il y en a sur lesquels aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, il en reste 4, sur lesquels on ne sait pas faire. Bon. Et moi, je dis, mais moi, j'ai confiance dans la recherche, j'ai confiance dans les générations qui viennent. Ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, je ne sais pas faire que ceux qui arrivent ne sauront pas faire. Bon. Donc, vous voyez, et je pense que vous avez raison, le challenge, on n'a pas compris que le challenge à l'énergie nucléaire, c'était aussi la gestion des déchets, et on n'a pas fait assez là-dessus. Et j'ai travaillé là-dessus pendant plus de 20 ans dans mon laboratoire, oui.
Alors, ma deuxième question, c'était, est-ce que vous avez des nouvelles sur l'avancement de l'énergie nucléaire de fusion ?
Alors, ça serait une autre conférence dont je vous parlais tout à l'heure, sur la fusion, la nucléosynthèse et le... Hein, je reviendrai.
On a déjà eu des conférences
Il y a déjà eu là-dessus.
Oui, trois.
Bon, c'est pas demain la veille. Hein, c'est pas demain la veille.
Ben, ils avaient donné 2050.
Oui, 2050. Alors, attendez, ITER. Moi, ITER, je disais c'est dans mes conférences... C'est un prototype. Hein, je l'ai dit l'autre jour à Dijon, parce que ceux qui parlaient de ça, les Bouchard et autres, étaient là. Et je me suis fait engueuler par le CEA. Ils m'ont dit, mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est un prototype. C'est même pas un prototype. C'est un appareil expérimental qui doit montrer la faisabilité industrielle. Après, on fera le prototype. Alors, vous voyez, en 2050, on a un appareil qui doit nous montrer la faisabilité industrielle. Après, on va faire un prototype, etc. Bon, même si notre durée de vie augmente, à mon avis, on ne verra pas...
Donc, je vais le mettre au programme de 2050.
Des réacteurs électrogènes à fusion, hein. Ou alors, il faut qu'on atteigne 2300, quoi.
Un de vos collègues, voilà. Collègues qui s'appelle Fournier, comme notre ami du BNAM, nous a finalement écrit un petit bouquin en disant que si finalement on avance en retard sur cette recherche-là, on manquerait d'énergie.
On va manquer d'énergie, oui, on va manquer d'énergie,
bien.
C'est clair.
Il y a d'autres questions Oui, oui.
Oui, on est au bout, là, à mon avis. On est au bout depuis un moment, parce que tous ces éléments-là que vous avez vus, les noms que vous avez là, c'est des périodes qui, à la fin, maintenant, on est en millisecondes. C'est-à-dire qu'il faut courir vite, hein, quand même. Hein. Donc, et rien n'indique... alors, on parle de nombres magiques, etc., mais si on a une pseudo-stabilité, parce que vous avez des physiciens, vous voyez, qui vont vous parler de la pseudo... stabilité, mais c'est vraiment pseudo-pseudo, parce que on va peut-être remonter à des secondes. Ouais. Bon, mais on n'ira pas plus loin que ça. Donc, il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez. Mais à peu près jusqu'à l'élément 100, à la rigueur, on peut trouver, au moins jusqu'au 98 californium, on a des applications possibles, quand même. Mais au-delà du 98, non. Non, non.
Moi, j'ai une question.
On est pratiquement au bout.
Je peux poser une question ? pourquoi Lise Meitner n'a pas été associée au prix Nobel d'Otto Hahn ?
Je sais pas, je peux pas répondre à cette question-là, malheureusement. Mais peut-être que les ennuis qu'elle a eu pendant la guerre, le fait qu'elle est coupée, qu'elle est obligée d'être coupée du laboratoire, pas améliorer les choses.
Alors, faisons de l'histoire fiction, on va refaire l'histoire, ça coûte pas cher.
Mais attendez, oui. elle a quand même son nom en élément, mais pas Hahn, il n'y a toujours pas le hahnium, hein. On en avait parlé.
Ah bah d'accord, donc
on en
c'est
avait
aussi
parlé,
une compensation.
Mais voilà. Il l'a toujours pas, lui. Alors, hein. Il le mérite aussi, mais...
Je crois quand même que c'est un hasard malheureux de l'histoire qui a fait que Otto Hahn a fait sa découverte en fin 1938. On aurait très bien pu imaginer que ça se passe... 5 ans après.
Oui. Ça aurait changé la...
Ça aurait changé la face du
choses,
monde.
Oui, hein? Oui, oui.
Bah,
oui,
vous voyez à quoi tient la destinée humaine. Hein?
Et
donc,
oui.
Et voilà, c'est comme ça. Et en plus, Otto Hahn, vous connaissez sa nationalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu... ça a été un des éléments qui a inquiété les Léo Szilard, la fameuse lettre, et qui ont fait dicter la fameuse lettre à Einstein, qu'il a regretté après d'avoir envoyé, et qui, en fait, n'a servi à rien, puisque le projet Manhattan s'est déclenché indépendamment.
Je pense qu'ils n'avaient pas fait d'excès de zèle, quoi,
voilà,
en Allemagne.
Voilà,
hein.
voilà.
Enfin, c'est ce qu'ils disent, du moins.
Donc je pense que M. Jacques Fauss, qui nous a fait une excellente conférence, reviendra l'année prochaine. D'accord ?
Avec plaisir, avec plaisir.
Voilà, la nucléosynthèse dans les étoiles, ce serait sympa, ça, non ?
Ou sur les quarks aussi, gluons et quarks.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est compliqué.
Allez.
Oui, il y a tout eu comme programme. Mais si on était sûr de la fiabilité des fusées à 100%, mais du sang qui ne soit même pas du 99,9, on pourrait peut-être envisager. Mais à mon avis, moi, je m'opposerai à ça, en tout cas. Je préfère la transmutation à ça, parce que la fiabilité n'est pas quand même...
Bien, merci et encore bravo. Pour cet exposé magistral.